Est-ce que le son de nos micros est bien calibré cette fois-ci?
Ça, c'est une bonne question. On va s'améliorer avec le temps. Et c'est commencé. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 10, saison 13, épisode 10, Studio Locomuse.
Studio Locomuse.
Et oui, je suis en compagnie de Antoine, Pierre et moi-même, Simon. Et aujourd'hui, un épisode un peu spécial, si on peut se le permettre. On va faire ce qu'on appelle de l'auto-promotion éhontée. Ou, en d'autres mots, parler un peu du Studio Locomuse. Le Studio Locomuse, c'est quoi? Eh bien, c'est notre studio de développement de jeux. À nous ici, nous trois, et quelques autres personnes. On essaiera de pas nommer tout le monde dans cet épisode, mais au moins nous trois, nous sommes là ce soir. Et on va vous parler un peu de notre aventure jusqu'à maintenant. En fait, on sort notre premier jeu officiellement sur le marché.
Ça va être à l'envers dans mon écran, c'est ça?
Ouais, le mien est à l'endroit, mais il est loin. Hein.
Ouais, il est là en petit. Des papiers, compilation de trois Roll and Write québécois. On y reviendra plus tard. Mais c'est ça. Donc, on va vous parler un peu de Studio Locomuse aujourd'hui. Donc, bonsoir messieurs, en forme?
Oh, que oui. Très en forme, très excité de parler de nous autres. On aime tellement ça, parler de nous-mêmes. On est vraiment des personnes égocentriques.
Ouais, mais c'est bien dit. Justement, je pense qu'à partir de maintenant, ça va être le spécial Locomuse chaque semaine. Parler un peu de l'envers du décor et de comment on se sent à l'intérieur. Vous voyez qu'on est moins à l'aise que d'habitude, un peu. Mais bon, Studio Locomuse, comment ça part? Ça part en 2020 avec Pierre et JF et l'idée de faire... Une espèce de melting pot. C'était pas exactement clair. On avait chacun un peu notre idée de qu'est-ce qu'on voulait faire. En gros, on savait qu'il y avait une demande pour faire des jeux sur mesure. Des clients potentiels qui voudraient avoir des jeux. Donc ça a été une des premières branches qu'on a ouvert. D'ailleurs, on a officiellement sorti 12 jeux dans ce département. Officiellement. On a officiellement signé 12 jeux. Il y en a deux en construction en ce moment.
J'en ai quelques-uns ici. Là, en fait, c'est drôle parce que toutes les boîtes que j'ai prises sont comme mauves. Là, fait que ça a l'air comme si on faisait que tous nos jeux étaient mauves. Mais dans mes bottines, ça, c'est un jeu... ça, c'est excellent, ce jeu-là. Un jeu de perspective et tout.
Tire-toi une bûche. QI santé. Ouais, ça, c'est pas vraiment officiellement Locomuse. Je ne vais pas le montrer. Lâche pas non, la patate. Tantôt, je vais sortir ça aussi. On va regarder ça un peu plus en détail. Ça, c'est une méga boîte remplie de surprises. Ouais, c'est ça. Donc, exact. Fait que ça a commencé comme ça et à un moment donné, on a dit qu'on allait faire nos propres jeux aussi. C'était pas très clair exactement, encore une fois, quel genre de jeu on allait faire. Mais c'est comme ça qu'est née l'idée de des papiers. Sérieusement, des papiers. Pierre, on se parlait juste avant la rencontre, puis Pierre était comme « Je vois notre jeu qui sort et je crois à peine la chose ».
Oui, effectivement, parce que ça n'a l'air de rien, c'est un projet qui a 3 ans d'existence et assez ironiquement, ce n'est pas parce que ça a pris 1 an pour faire chaque jeu dans la boîte. les gens qui l'ont suivi depuis le début savaient qu'on était beaucoup trop gourmand pour ce qu'on voulait être avec Simon et son enthousiasme sans fin. Lui pensait qu'on pourrait se lancer à faire pas 3, mais une bonne douzaine de jeux dans une boîte. Et puis, la réalité l'a vite rattrapé. En fait, lui et le reste de l'équipe, Antoine n'était pas encore dans l'équipe à ce moment-là, que déjà, Simon et moi, en pleine pandémie, on réalisait que le travail qui nous attendait pour faire une douzaine de jeux, c'était un peu trop colossal. Malgré qu'on était quand même fixé sur les 12 jeux qu'on allait mettre dans la boîte et on commençait vraiment à les tester un par un et on était vraiment déterminé
dans le cartable à ce moment-là.
Oui,
c'était un cartable.
Boîte,
C'est vrai, ça c'est le détail aussi qui que j'ai oublié. Simon avait lancé l'idée qu'on pourrait faire ça dans un cartable.
Mais là tu présentes ça là, comme si j'étais un espèce de gars excentrique qui avait juste une idée vraiment fuckée. Mais
c'était pas
exactement ça à la base des papiers. Des papiers, on était en pleine pandémie, ok? Nous, on avait lancé une entreprise de service pour faire des jeux de société. On peut imaginer que les contrats, il y en avait, mais ils coulaient pas à flot comme on aurait espéré. Hein. Tu sais, c'était pas comme la grosse tendance, les jeux de société en pleine pandémie. Fait qu'il fallait qu'on trouve quelque chose. Et c'était aussi, je vous rappelle, l'époque de consommer local, panier bleu, acheter toutes vos shit du Québec. Tu sais, il y avait comme une espèce d'engouement là-dessus. Et c'était aussi l'époque où tout le monde sortait des print and play roll and write parce que tout le monde était chez eux puis envoyait ça. Donc toutes ces choses ensemble se sont dit « Ah, j'ai le goût de faire un projet qui va mettre de l'avant l'inventivité et la créativité québécoise. » Donc lançons un appel aux auteurs, autrices de jeux du Québec. Avez-vous des roll and write qui tiennent sur un 8,5-11 et qui prennent seulement des dés? Parce que l'idée, c'était de faire imprimer un livre dans lequel il y aurait une page qui présente le roll and write avec les règles, et les gens pourraient s'imprimer des copies et, avec leur dé à la maison, jouer. Donc, c'était quand même un projet relativement simple au départ, surtout que tous les jeux avaient déjà une espèce d'identité visuelle faite par le créateur ou la créatrice elle-même. Mais là, de fil en aiguille, ça l'a cascadé, ça l'a évolué, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et Pierre, t'as raconté l'histoire jusqu'à la moitié, parce qu'à un certain point, c'est que ce projet est aussi parsemé de toutes les embûches du monde. Donc, je pourrais pas dire à quel point on a rencontré des épreuves pour que ce projet vienne au monde. Mais d'ailleurs, ce projet a littéralement failli mettre la compagnie en faillite. Et pas parce qu'on n'avait pas bien calculé nos coûts, tout ça. Non, parce que, comme vous savez probablement, il y a eu une entreprise au Québec qui a fait faillite, Momentum, fabricant de jeux. Et ils ont fait faillite avec notre dépôt. Hein. Le but, c'est pas de se plaindre sur la place publique maintenant que ça s'est passé. Mais ça fait quand même partie de l'historique de ce jeu, des papiers.
Ouais, mais je dois dire, par contre, que à peu près une heure après qu'on ait appris la faillite, on s'est juste posé la question, OK, qu'est-ce qu'on fait à cette heure? On sait pas. Je veux quand même qu'on se donne des bonnes tapes dans le dos parce que on a juste travaillé à se relever, puis on s'est pas apitoyé sur notre sort plus que 30 minutes.
C'est très vrai. J'ai passé une semaine à parler à tous les imprimeurs du Québec. Peut-être pas tous, là, mais j'ai parlé à une quarantaine d'imprimeurs, le même appel, 40 fois. J'expliquais c'était quoi le jeu, les gens comprenaient pas trop, ils étaient comme ouais, nous on fait pas vraiment des jeux, faites-vous des boîtes comme ça? Non, on fait pas des boîtes comme ça. Fait qu'en tout cas, ça a été toute une affaire. Puis ben Antoine, toi tu t'es retourné pour aller voir du côté de la Chine qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est l'option qu'on a choisi quand même. À la fin, le but était de l'imprimer au Québec, mais là avec cette mésaventure, je pense que ça a été le choix le plus judicieux pour nous là.
Oui, c'est sûr que ça a dérogé un peu de notre idée, de l'idée originale en fait, mais on voulait avoir 100% Québec, mais c'était quasi impossible. Là. C'est sûr qu'il y avait quand même Cardston qui était une option au Québec, mais qui était plus dispendieuse que notre option originale.
D'ailleurs, on les salue parce qu'ils ont été très cool. Ils nous ont fait une soumission express et ils nous ont même dit qu'ils pouvaient nous passer dans la chaîne de production à un moment que c'était pas prévu juste pour nous accommoder. Bon, finalement, ça se donnait pas parce qu'on avait juste pas les fonds pour le faire. Mais ils ont été très cool et d'ailleurs, on va travailler avec eux pour d'autres projets. J'en dis pas plus pour l'instant.
Ouais. Hey, pas de punch là-dessus.
Pas de punch.
Fait que, donc, c'est ça. Ça a été quand même parsemé d'embûches avec ça, entre autres. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que ça a beau être une boîte, ça reste le même développement que pour trois jeux. C'est comme si on sortait trois jeux en même temps. Là. Fait qu'il y a, tu sais, trois livres de règles. C'est assez ardu déjà.
Bilingue?
Oui, donc 6 livres de règles, donc 3 en français, 3 en anglais. On a eu quand même un peu d'aide aussi pour les livrets de règles. Je salue Stéphane Vachon là, qui nous a aidé un peu avec la mise en page de départ. Donc, ça nous a fait un beau canevas. Et en passant aussi, je veux saluer Olivier qui est dans le chat. Olivier, qui est l'auteur de, voyons, de Deux Serpents, là, qui fait partie de, du coffret d'ailleurs. Donc, salut à Olivier.
Alors, je pense que j'ai vraiment complètement dénaturé l'histoire de la création de ce jeu. À chaque fois que j'en parle, ça devient de plus en plus incroyable.
Ouais, si je me souviens bien, c'est Olivier, il était dans un bad trip de moche, puis il a eu une vision.
Non, il avait pris de la mescaline dans un désert du sud des États-Unis avec un chaman.
Et, ah oui, c'est ça.
Il s'est réveillé tout nu dans un fossé à côté de Las Vegas.
Je pensais qu'il était un corbeau. Je vais faire un jeu avec des serpents.
Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, le désert, les serpents, tout ça va bien ensemble. Mais c'est ça, compilation de trois jeux dans une boîte, c'est un projet assez ambitieux qu'on n'avait pas réalisé toute l'effort que ça allait prendre pour le mettre à terme, en fait, ce jeu. C'est notre premier jeu, fait que c'est nos trois premiers jeux d'un coup. Et comme a dit Pierre, en fait, j'espère que ce concept va bien fonctionner parce qu'en réalité, on a quand même 9 autres jeux en réserve. Oui, les règles sont pas nécessairement toutes écrites, le visuel est pas complété, mais les jeux ont été développés quand même. Là, t'sais, y a eu beaucoup d'efforts sur les tests, sur le fait que le jeu était solide et tout ça. Donc, en espérant un jour que ces projets puissent voir le jour, à suivre.
Oui, à suivre. Mais c'est ça, il y en avait là-dedans qui étaient très ambitieux. Ça nous prendrait une boîte avec une vingtaine de dés à l'intérieur là, pour certains jeux. J'en dis pas plus, mais je dis bonjour à Marc au passage.
Ouais, mais Marc m'a parlé en me disant qu'il avait sensiblement simplifié son jeu. Là.
Ah, 18 dés au lieu de 20.
Maintenant, ça tient sur une feuille au lieu de deux. Déjà, c'est bon.
Oh, ça, c'est déjà un bon départ.
Déjà, ça, c'est une bonne amélioration pour nous.
Est-ce que tu vas présenter les trois jeux, Simon?
Absolument. Donc, je vais les présenter comme je les ai présentés à tout le monde à la quiche en fin de semaine et comment j'aime bien les présenter. Des papiers, compilation de trois Roll and Write québécois. C'est une fierté pour moi de vous présenter ce produit terminé. Nous avons le premier jeu, Arthurus Rex, gagnant du proto de l'année. Création d'ailleurs de notre ami Antoine ici présent. Arthurus Rex, c'est un trait futé. Ah oui, là, vous le voyez à l'envers. Le voyez-vous à l'endroit, là? Non. C'est génial, ça. Arthurus Rex, c'est un trait futé simultané avec une thématique. Alors, les joueurs vont réaliser différentes quêtes arthuriennes en jouant leurs dés dans les différents modules de jeu. Chaque module est très différent. Par exemple, le Graal peut mettre fin prématurément à la partie. On va jouer des dés qui sont croissants à l'intérieur de ça. On peut libérer Guenièvre en jouant des doubles. On peut construire Camelot, aller chercher des bonus qui nous permettent de transformer nos dés. Bref, chaque module est unique et a sa petite particularité. Jeu qui a la caractéristique de terminer toujours très serré et de pousser les gens à vouloir faire une deuxième partie pratiquement immédiatement. Arthurus Rex, 4 joueurs.
Je vais parler un peu du développement vite.
Absolument, vas-y.
En gros, je suis parti de l'idée, évidemment, de Tréfuté, mais il y a quelque chose que je n'aimais pas trop dans Tréfuté, c'est que les tours peuvent être longs, surtout à 4 joueurs, là, c'est interminable comme partie. Il n'y a pas d'interaction ou presque dans ce jeu-là. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi qu'on n'essaierait pas d'en faire un simultané? Ça, c'est une chose, mais je ne voulais pas que les joueurs utilisent toutes les mêmes dés non plus. Ça, c'était l'autre petit hic. Donc, en fait, ce que j'ai fait, donc là, la règle dans le jeu, c'est que chacun va rouler son propre dé, mais vont pouvoir utiliser seulement les dés des autres joueurs. Donc, on se retrouve à avoir tous des dés à peu près pareils, mais pas exactement pareils. Donc, ça s'assure d'une certaine asymétrie dans le jeu. Mais ça va quand même garder une certaine balance parce que ton propre dé, tu l'utilises pour autre chose. Donc, tout va bien se balancer à ce niveau-là. Donc, ça, c'était vraiment le côté un peu plus simultané, mais asymétrique un peu.
Ouais, très, très, très bien réussi d'ailleurs. Je me rappelle encore les conversations des juges pendant le proto de l'année en disant, parce que ce jeu-là, c'était juste une feuille blanche avec des cases dessus là, quand on l'a joué. Là, les juges étaient comme, on va-tu vraiment faire gagner un roll and write au proto de l'année?
Et finalement, oui, parce que c'était le jeu qui s'était illustré à ce moment-là. Deuxième jeu, Roll and Cook Express. On va jouer un camion culinaire, en fait, compétition de camion culinaire dans lequel on va essayer de faire le plus de recettes possible ou du moins servir le plus magnifique visuel d'ailleurs de Benjamin Gauthier, qui est aussi l'auteur de ce jeu-là. Donc, c'est lui qui a fait les illustrations pour tous les jeux, mais c'est aussi celui qui a fait ce jeu en particulier. Roll and Cook Express, il y a une version Roll and Cook normale qui existe. Et ça a eu un certain buzz pendant la pandémie. Justement, les gens jouaient. Il y avait même des gens qui jouaient sur Twitch. Il y avait des soirées Roll and Cook. Et on a décidé de faire une version basée sur la version d'intro que Benjamin avait fait. Donc, une version juste un petit peu plus light du jeu. C'est, on va dire, le jeu le plus accessible du lot. Okay? C'est le jeu, ok, vous êtes beaucoup, vous voulez jouer à un jeu tout le monde en même temps, parfait. On joue à Roll and Cook, c'est pas compliqué, c'est très cool. Mais
techniquement, il se joue à plus que 4.
Ah ouais, il se jouerait à infini.
Il y a juste 4 plateaux dans la boîte, évidemment, parce qu'on peut pas faire une boîte qui pèse 4 tonnes, mais
si ça vous pourrait faites des jouer à 10, 12, ouais, sans problème. Jouer à n'importe combien. Par contre, ce qui nous a vraiment charmé de ce jeu et ce qui le différencie, et là c'est Pierre qui va être content parce que Pierre n'arrêtait pas de dire « Ouais les gars, il faut qu'on ait des roll and write interactifs, faut qu'on fasse quelque chose qui sorte des sentiers battus, de toutes les roll and write, tout le monde fait ses affaires dans leur coin, font leurs petites choses. » Et Roll and Cook, on se le cachera pas, c'est vraiment ça, chacun fait ses choses dans son coin, tout le monde a les mêmes dés. Le jeu est très agréable, très plaisant, mais c'est quand même ça qui se passe. Par contre, il existe une variante qui s'appelle les plats partagés. Et cette variante-là réellement change complètement le jeu. Ça, c'est la version avec laquelle je joue toujours à Roll and Cook. Je dis pas que l'autre n'est pas intéressant.
À 3 ou 4 joueurs, là, c'est
ah ouais,
inévitable.
C'est magnifique parce que ce que ça change, c'est que au lieu que tout le monde fasse leur recette en même temps, eh bien, tout le monde joue en même temps. Là, en fait, on va écrire la recette qu'on a fait. Là, il y a une petite case, je n'explique pas toutes les règles. Mettons, je dis, moi, je fais un burger ce tour-ci, je l'écris. Et à Go, on va tous révéler en même temps quelle recette on a fait. Si vous êtes la seule personne à avoir fait une recette ce tour-ci, vous allez faire beaucoup de points. Alors que si vous êtes plusieurs à avoir fait la recette, vous allez faire moins de points. Donc, il y a une espèce de jeu de tension, presque de bluff, de négociation qui s'installe autour
presque
de la table.
Bon. C'est ce qui est la beauté de la chose.
Tu fais pas la poutine sourcil, là. Je fais pas la poutine sourcil, c'est moi qui a fait. Hey, la prochaine est plus payante. Non.
Puis moi, fais la poutine.
Puis là, Pierre, il dit rien, puis il fait la poutine juste pour faire chier le monde.
Ben, c'est Pierre.
Ouais, c'est sûr. Fait qu'il y a vraiment comme une... Tu sais, contrairement à la plupart des Roll and Write, le jeu se passe pas sur le plateau des joueurs, mais il se passe au centre de la table. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare.
Tu dis un peu de négociation, mais ce qui est la beauté de la chose, c'est quand les mêmes joueurs vont rejouer, il va se faire un peu de metagame, là, puis de jeu de bluff, puis de négociation, puis du trash talk. Donc, moi, c'est ce que j'aime de ce jeu-là, sérieusement. C'est l'interaction, elle est incroyable. Là.
Et une chose particulière avec ce mode de jeu, c'est que ça crée comme des trends, des tendances dans la partie. Ça crée des tendances. Fait que là, mettons, là, tout le monde commence à faire des burgers. Plus un burger est fait souvent, plus il vaut cher. Mais si tu le fais en même temps que les autres, il vaut moins cher. Fait que là, mais là, le dernier burger, il vaut
15 rien.
Points. Là. Non, l'avant-dernier, excusez-le. Les derniers, après, ils valent moins de points. Là. Mais mettons, le dernier gros burger, il vaut 15 points. Fait que même si j'ai fait aucun burger dans le game, je veux faire le dernier parce que c'est lui qui va valoir beaucoup de points.
Ouais, puis si tu joues contre Pierre, tu le sais qu'il va toujours faire des salades.
À quoi, s'il est végé?
Non, je sais pas, c'est le seul qui fait des salades.
Ah ouais.
Moi, je me dis, je fais pas de salade, sinon j'aurais pas d'amis.
Personne ne pense à faire des salades. C'est fun de faire des salades.
Ouais, puis tu fais des potages aussi, puis des pains. Souvent.
J'avoue que les potages et les pains, moi, j'en fais vraiment souvent. Ce que je fais pas souvent, c'est les crêpes au fromage.
Oh, pourtant, c'est tellement payant, les crêpes.
Ouais, ben c'est ça, mais tu vois, je suis pas habitué. Ça a été comme celui qu'on a rajouté à la fin. Donc, Roll and Cook, on s'est beaucoup amusé sur ce jeu, et c'est un jeu sur lequel il y a eu...
Benjamin, justement, qui vient d'apparaître.
Ben oui, il est là dans le chat. Fait que il y a eu beaucoup de développement qui a été fait sur le jeu, beaucoup de travail avec Benjamin, beaucoup de tests. On a joué beaucoup. Pas que les autres, on a moins joué, mais les autres, on les avait déjà testés beaucoup avant. Alors que lui, il a comme commencé à se complexifier un peu plus tard. Le dernier jeu du lot, et non le moindre, on en a parlé un peu tantôt, créé durant un rêve par Olivier Lamontagne, auteur de Miss Poutine, Richelieu, Carcassonne de Dice Game, et etc. Donc, Deux Serpents, c'est un jeu deux joueurs, un mélange entre Tron, le jeu de moto avec la lumière, et Snake, le jeu du serpent qui ne doit pas foncer dans sa propre queue. Les joueurs vont jouer sur un cadran à la fois et vont essayer de coincer leur adversaire. C'est un jeu de draft, de repêchage de dés. Alors, on va rouler les dés vont nous indiquer dans quelle direction est-ce qu'on peut se déplacer avec notre serpent. Et donc, je vous les ai expliqué 90% du jeu là. C'est tout bête, ça a l'air vraiment simple. C'est un jeu autant pour les grands-mères que pour les gamers, les hardcore gamers, parce qu'il y a beaucoup de stratégies, il y a des powers que tu peux aller chercher. Donc, ça marche vraiment bien, ce jeu-là.
Et c'est tendu à partir du deuxième tour, déjà.
C'est ça, c'est tendu. Et c'est un des rares jeux, peut-être parce qu'il est vraiment court, mais un des rares jeux de société que je me plais à regarder des gens jouer. Tu sais, oui, OK, une game d'Arthurus, c'est cool, je vais passer, je vais regarder un peu, je vais repasser plus tard, je vais regarder la fin de la partie. Je vais pas nécessairement m'asseoir tout le long et la regarder avec le plus grand intérêt du monde. Mais ça, ça feel comme un jeu vidéo. Tu veux regarder les gens, tu veux sentir le roulement de dés décisif et tout ça. Donc vraiment, je crois que dans cette boîte, il y a trois jeux assez différents qui peuvent toucher un même public, mais qui sont très solides, en fait. Je crois qu'on a des jeux qui sont très solides, qui ont peu de comparables sur le marché.
Ce qu'on peut dire, en fait, aussi, sur la boîte, c'est indiqué 14+. Donc, ceux qui sont dans le secret du métier, en fait, savent que 14+, c'est juste parce que tu ne voulais pas payer pour les tests de sécurité. Donc, les tests de sécurité sont assez coûteux, surtout quand tu as certains produits comme les crayons effaçables et tout ça. Donc, techniquement, ça peut être joué par des 10 ans et plus sans aucun problème, selon moi, au niveau de la difficulté du jeu. Mais c'est peut-être Arthurus, c'est 12 ans et plus parce qu'il est un petit peu plus complexe, mais les deux autres sans problème à 10 ans.
Absolument. Donc, si là, tu sais, le but c'est pas de vous vendre le jeu, hein, c'est juste de vous le présenter. Mais si mettons vous voulez l'acheter, ben distribution d'Oud, vous avez les points de chute, donc toutes les boutiques dans lesquelles ces jeux se retrouvent. Sinon, allez tout simplement à votre boutique et demandez avez-vous des papiers? Et ben s'ils l'ont pas, ils vont le commander. Fait que ça, c'est la beauté de la chose. On va être dans des événements avec le jeu tout au long du printemps, peut-être même un peu l'été, peut-être même si les gens réagissent bien, peut-être même jusqu'en hiver. On va voir où on va en être rendu à ce moment-là. Mais des papiers promo principalement durant le printemps.
Oui, en fait, il y a deux. Oui, Pierre, vas-y.
Que se passe-t-il, Simon, si j'habite en France et comme Ludovic Jumet, j'aimerais avoir ma copie de des papiers.
Aïe, aïe, aïe. Eh bien là, c'est toute une question. Si tu habites en France, je ne sais pas comment on peut s'y prendre. Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de s'arranger. Écrivez-nous sur notre page Facebook, OK, Locomuse Studio, ou sur notre site web, locomuse.com, et on va trouver un moyen de s'arranger. Okay? Il y a toujours moyen de s'arranger si vous voulez absolument une copie, surtout si c'est pour la France. Eh bien, écrivez-nous, puis on va trouver une solution. Mais c'est un très bon point, Pierre. Merci beaucoup. Et si vous êtes aux États-Unis ou au Canada anglais et vous parlez anglais, même chose, écrivez-nous. Par contre, il y a toujours une possibilité non explorée que ce jeu soit éventuellement distribué en anglais. Il n'y a juste eu aucune démarche pour l'instant pour la chose.
Ben, c'est pour ça qu'on avait fait aussi le cahier bilingue. On s'est dit, si jamais on veut attaquer le marché canadien-anglais ou même américain, au moins déjà, ça va être fait. Là.
Fait que là, je vois que le temps file à une vitesse astronomique. Et qu'est-ce que le futur réserve à Locomuse? Alors, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains temps? Est-ce que Locomuse, c'était un one-time thing? Est-ce que c'était juste des papiers? Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Il y a d'autres choses certaines. D'ailleurs, on voit déjà une partie de ces autres choses sur la tablette en arrière de Simon. En fait, on voit trois projets qui sont...
Ouais, ça c'est probablement les deux plus près de notre réalité, je crois, là.
Oui, effectivement. Ce que Simon et Antoine tiennent, c'est un petit jeu du Singapour qui s'appelle Mooncake Master, où on s'amuse à faire des gâteaux qu'on appelle des gâteaux de lune, une pâtisserie très populaire en Asie et au Singapour notamment. Vous avez probablement douté de ça. Ce sont, bon, pour ceux qui connaissent le gâteau de lune, vous savez que c'est comme une espèce de petite tartelette à saveur de pâte d'amande, je dirais, avec parfois d'autres parfums.
Des graines de lotus, thé vert et haricots rouges.
Ouais, les gars, parlez pas trop de la thématique, on la change. Là, fait que...
Oui, je sais.
Oui, ben, c'est ça. En fait, on se justifie le nom du jeu. Mais c'est un jeu, dans le fond, qui...
Cake Master, on va appeler ça.
Extrême. Dans ce jeu-là, vous allez construire, bah, vous allez créer des desserts en quatre parties, donc quatre corps. Et chacun des corps du dessert que vous allez créer va avoir ses caractéristiques et vous allez nécessairement vouloir respecter des conditions pour vos caractéristiques parce qu'il va y avoir des objectifs qui vont être déterminés par des clients qui vont apparaître au début d'une manche. Et ces clients vont vouloir des pâtisseries spécifiques et vous allez vouloir créer ces pâtisseries avec les spécificités que les clients vont demander et savoir, vous avez deviné, vous rapporter plus de points si vous réussissez à le faire. Vous allez toujours créer trois pâtisseries à la fois. Et la petite astuce du jeu, c'est que chaque joueur va devoir passer des cartes à leurs voisins parmi les cartes qui vont créer leur pâtisserie. Donc, c'est assez interactif. Ça fait penser un peu, je vous dirais, à un Seven Wonders ou à un Sushi Go. Mais à double repêchage. Au lieu de passer seulement à votre voisin gauche ou voisin droite, vous passez à vos deux voisins en même temps.
Ouais, en fait, on a trois cartes en main. On en garde une. On a donné une à gauche, donné une à droite. Fait qu'on peut facilement cochonner les adversaires en leur donnant les portions qu'ils ne veulent pas avoir. Fait que règle très simple, mais qui donne aussi lieu à des choix déchirants, parce que des fois, tu veux satisfaire au jeune garçon ici là, qui veut des noix, mais juste une couleur. Mais là, tu te dis, OK, si je fais ça, je vais être obligé de sacrifier des points ailleurs. Donc, il y a vraiment un choix intéressant à faire à ce niveau-là.
Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ouais. Un des intérêts de ce jeu, c'est que c'est très simple, hein? C'est 2 à 6 joueurs, donc c'est vraiment un jeu qui peut jouer un peu avec tout le monde. Par contre, les gamers vont y trouver leur compte pour les raisons qu'Antoine explique.
Ouais, c'est vraiment un beau petit puzzle, sérieusement, et ça peut être joué de façon très tactique. Donc, super intéressant, mais comme on l'a dit, on va refaire le visuel, on va changer le format de boîte aussi, donc ça sera plus un petit cube comme ça, qui est un peu atypique, là. Ça va ressembler un peu plus à une boîte de format Sea Salt and Paper, pour ceux qui connaissent.
Et là, je vois le temps encore une fois file, mais je vais vous présenter notre grosse sortie de la fin de l'année. Et pour vous comprendre que Locomus ne fait pas les choses comme les autres et qu'on est, comme ils disent en France, un objet ludique non identifié, c'est un peu comme ça qu'on aimerait se définir dans le temps, donc quelque chose qui est un peu dans la marge sans gauche. Eh bien, notre grosse sortie de la fin de l'année est l'une autre qu'un jeu pour enfants. Un jeu pour enfants de déduction. Un jeu pour enfants de déduction un contre tous. Un jeu pour enfants de déduction un contre tous, basé sur la franchise Mimose et Sam, donc une BD jeunesse. Et oui, un jeu de déduction, un contre tous, pour enfants basé sur une BD québécoise designée par Thomas Dagenais-L'Espérance. Alors, vous pouvez imaginer que quand on parle d'objets ludiques non identifiés, j'en tiens un dans la main qui fonctionne très bien. Mimose et Sam et le voleur de fruits.
Dois dire qu'à Cannes, parce qu'on a été au Festival international des jeux de Cannes il y a quelques semaines, et surprenamment, ça a été le jeu qui a créé le plus de buzz avec les distributeurs.
De nos jeux à nous, bien entendu. Là,
oui, effectivement, de nos jeux à nous, là, dans notre catalogue, c'est celui qui a le plus accroché. C'est sûr qu'il trouvait ça mignon et tout, puis on disait, ah, c'est un jeu de déduction. Ah, ok, c'est bien. Un contre tous. Là, tu venais des vraiment des accrochés. Parce que pour enfants, un contre tous, ça devient quelque chose qui n'a jamais été fait, à ce que je sache. Pierre pourrait peut-être me le dire, là, qu'il y en existe probablement 53 autres là, qui ont été faites en Chine ou en Inde.
Ne réveille pas papa qui dort.
Oui. Ben, les jeux de chasse à l'homme, effectivement, ben, il y a eu... Non, je pense... Est-ce qu'il y a eu un Scotland Yard pour enfants? Il faudrait se rester à vérifier, mais c'est sûr que c'est vraiment pas commun. C'est très, très... c'est très particulier. Déjà que oser faire un jeu de déduction pour enfants, c'est quand même audacieux, parce que on le sait déjà pour les adultes. Ça demande pas mal de jus cérébral de jouer à un jeu de déduction. Alors, quand vous approchez les enfants avec ça, il faut quand même être sûr de ses moyens.
Oui, mais sérieusement, c'est un jeu qui fonctionne super bien. Même les parents vont adorer jouer ça avec leur enfant, parce qu'il y a quand même aussi un intérêt pour les parents de jouer. C'est ce qui est la chose la plus importante pour moi dans un jeu pour enfants. Parce que si le parent n'aime pas ça jouer, le jeu ne sortira pas. Donc, il ne sortira pas sa table. Il va toujours trouver une excuse pour ne pas vouloir jouer avec l'enfant. Mais quand un jeu qui est intéressant pour l'adulte, c'est là que ça devient vraiment un hit, là.
Ben, messieurs, le temps a filé à une vitesse astronomique. C'était la première fois, grand public, que nous parlions vraiment de nos projets. Malheureusement, non, Antoine. Et on est en podcast. Fait que si tu fais juste montrer des boîtes, seulement les gens sur YouTube pourront les voir. désolé, moi je voulais montrer le jeu dans lequel on a des graines à planter et des trucs pour planter des graines, exactement, avec de la terre, des trucs que tu te mets dans le front, qu'on sait pas trop c'est quoi. Mais bon, fait que le temps a filé. Si c'est quelque chose que vous appréciez d'entendre parler des dessous de notre entreprise, ben laissez-nous savoir. Si c'est quelque chose qui vous écœure, parce que vous êtes comme hey, Chris, moi j'écoute pas ça pour recevoir de la promotion dans ma face, ben dites-nous là aussi. C'est un premier test qu'on fait. On était assez discret, en tout cas pas. On était relativement discret avec ça depuis le début. Par contre, c'est sûr que si c'est quelque chose qui intéresse les gens, ben ça nous ferait quand même beaucoup de sujets à discuter. On a beaucoup de projets en cours, beaucoup de défis, plein d'informations à échanger. Donc, laissez-nous savoir ce que vous en pensez.
On n'a même pas parlé du jeu sérieux encore.
Ben non, c'est ça, c'est la base.
Complet là-dessus.
Exactement. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.
Bye bye tout le monde.